Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Rotten sans flamme. On est là, on est bien, on est reparti pour une magnifique semaine. Et quelle semaine ! Semaine de rentrée scolaire, mais nous, voilà, ça commence vraiment. La semaine dernière, c'était une petite mise en bouche. Pour ceux qui nous ont écoutés, vous avez été nombreux à nous écouter. Là, vous êtes encore plus nombreux. Vous êtes nombreux sur la route, donc faites attention. Et surtout, on se retrouve pour une magnifique année avec que des cadors autour du plateau, comme d'habitude. Vous le savez, depuis maintenant 6 ans, on est là dans Rotten sans flamme à se régaler avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ah bah, ravi de te retrouver, ravi de retrouver l'équipe. Il y a beaucoup d'actu ce soir.
Ouais, et beaucoup de surprises cette semaine dans Rotten sans flamme avec des grands invités. Donc soyez à l'écoute, déjà profitez. On est avec un champion du monde, c'est Christophe Dugarry. Salut Dugas.
Salut Jérôme, salut Benoît, ravi de vous retrouver les copains.
Salut Dugas.
Très content d'être là, bien sûr.
Ah oui, c'est la classe.
T'arrives, tu dis bonjour Christophe Dugarry, champion du monde.
Champion du monde.
Ouais.
Et bonjour Monsieur Dimeco, champion d'Europe. Ah, salut ouais. Eric.
Salut Jérôme, oula. Salut Eric. Moi, salut Dugas, salut à tous.
Oh les galéjades alors, ça a laissé des traces.
Oh putain, ouais.
Ah bon?
Et ce matin, tu m'as eu au téléphone, je savais pas si j'allais pouvoir participer.
J'ai cru que t'avais pris 20 ans, quoi.
Ah ouais, la voix, la morte.
Ah, c'est la voix, je croyais que c'était le beat parce que t'avais tellement rigolé.
Ah bah c'est possible, bien sûr.
Ah mais on s'est régalé d'ailleurs. Ouais, c'était content. Ouais. Je remercie tous les partenaires, tous les spectateurs qui sont venus.
Félicitations, voilà, Eric.
On a vu des invités de marque samedi soir. Nous
Bravo.
Avions Monseigneur, Son Altesse Sérénissime, le
prince Albert
qui est venu dans mon village, voir Patrick Bosso en concert avec les petits jeunes.
Ah, c'est pour ça qu'il était plié hier. Il avait mal au bide, mais il a tellement rigolé.
Il a rigolé hier aussi.
Ouais, c'est pour ça, ouais. Il m'a dit
ça. Oh, c'est plus. Vrai que ça fait beaucoup.
C'est un autre spectacle. Ouais, c'est autre chose. Bravo Eric pour l'organisation.
Bravo Eric.
C'était fantastique.
Bravo. Fantastique.
On vous l'a dit, beaucoup d'actu ce soir dans Rotten sans flamme. Toutes les actualités Mercato signées Fabrice Hawkins, elles sont à retrouver sur rmcsport.fr. La principale, on va la traiter à 19h. Rotten se chauffe. Est-ce que le PSG a raison de prolonger le contrat d'Ousmane Dembélé? Tout est en très bonne voie. On pourra en parler.
Certains vous avez dit qu'il y avait un problème avec Ousmane.
Écoute, il va prolonger.
Il n'y a pas de problème en fait.
2029 ou 2030, on fait le point sur ce dossier à 19h. Supporters parisiens.
A souvent raison dans Rotten sans flamme quand même.
Vous le savez, Jérôme est devenu un spécialiste de la Liga. On va donc parler du Real Madrid à 18h45 dans le Halo Jérôme avec Edgar Grollo. On va revenir sur la calinothérapie de José Mourinho. Et oui, il prend soin de ses vedettes, José Mourinho, notamment de Bellingham et de Kylian Mbappé. Pour l'instant, ça marche.
Ouais, il lui rentre bien, ouais.
Voilà, on pourra en parler avec vous là aussi au 32-16. Un vrai débat, Rotten sans flamme, un vrai procès à 18h25. On va ouvrir le procès de tous ceux qui militent pour une présence d'Esteban Le Poll en équipe de France. Encore un doublé pour le meilleur buteur de Ligue 1 de la saison dernière. Les avis sont différents dans la Dream Team. Vous allez voir, ça va nous offrir un grand procès. Et puis l'autre actu de la journée, vous avez certainement vu ça. C'est terminé pour Léo Messi en équipe nationale d'Argentine. Il vient de l'annoncer sur ses réseaux sociaux. Alors on va modifier le programme à 19h30.
Pour le gars.
La VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que la carrière de Messi est inégalable? On vous attend là aussi au 32-16 pour en parler avec moi. Le numéro WhatsApp est ouvert, 06 12 424 424. Le 32-16 également. Et puis le jeu de la rentrée, Jérôme, regarde derrière toi, il y a toujours la roue de la rentrée, la prime de rentrée.
La roue, elle est où la roue? Allez là.
Vous savez,
belle roue, hein.
En jeu la somme de 31 750 euros, à laquelle on va ajouter 125, 250, 500, 1000 ou 1500 euros. C'est Jérôme qui va tourner la roue entre 18h et 20h. Écoutez bien, parce qu'au moment du top inscription, qu'on va écouter dans un instant, voilà la sonnerie de la rentrée.
Ah ouais, c'est original en plus.
Vous aurez 10 minutes pour envoyer prime par SMS au 732-16.
Franchement, quelle trouvaille.
C'est vrai que la sonnerie, mais au moins c'est identifié.
Ah non, c'est original.
Prime.
Bravo Greg. C'est pour ça qu'il est là.
On a également du direct dans Rotten sans flamme, l'US Open qui démarre et un grand espoir français. Est-ce qu'un Français va remporter un grand chelem?
C'est la question qu'on posera. Il y en a qu'un qui peut encore.
Parce qu'Arthur Fils est en train d'affronter Stefanos Tsitsipas. Il ne
faut pas perdre le premier tour.
Le premier set est en cours. Eric va nous rejoindre d'ici quelques secondes pour savoir ce que donne Arthur Fils face à Tsitsipas. Sachez qu'il vient d'empocher le premier set, donc face au Grec. 1-0 pour Arthur Fils. C'est la bonne nouvelle. 18h05 sur RMC. Tout de suite, Jérôme, le mercato de l'OM, ça commence à tendre, Eric.
Nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez.
Bruno Genesio s'appuie sur ce qu'il a, tout simplement, sur ce qu'il a encore sous le coude. Dans le cœur du jeu, on va retrouver Pierre-Emile Heuberg avec Quinten Timber, avec Imad Abdelli.
Tu vois ça sur le terrain ? Eh bien, moi, je suis désolé, j'ai envie de savoir où sont passés les sous. Voilà.
Il faudrait qu'il y ait certainement 3 ou 4 joueurs qui nous quittent.
Je le dis ! J'ai envie de savoir où sont passés les sous.
Encore un choix difficile pour Bruno Genesio. Il n'y a plus de milieu récupérateur en tant que tel. Le retour de Neil Maupay.
A levé toutes les cordes là, ou tous les câbles qui pourraient servir de potence.
Côté marseillais, retour vers le futur. Deux avec l'entrée de Faris Moumbagna.
La tête de Faris Brunner. Les Marseillais apathiques.
Quel championnat des meilleurs.
Arrête,
je vais me mettre en colère.
Brunner qui rentre dans la surface, le crochet. Il a mis Kondogbia par terre. La frappe, ça fait deux. Le but magnifique de Faris Brunner. Il a fait tout voir à Kondogbia, le nez dans la pelouse.
Non, j'arrête. Non, ça suffit.
C'est jamais là, c'est pour vous.
Et prends soin de ton petit cœur, la saison va être longue, a priori.
Ouais, non, mais ça va, je suis blindé là.
Ça va ? Bon, bah, tant mieux.
Ça va.
Tiens, j'ai Alexandre sur le numéro WhatsApp qui me dit, avec ce qu'il dit dans l'émission, Duga mérite de participer au Galéja de la saison prochaine. Pour réfléchir, Eric.
Oui.
On verra.
Oui. Tu sais, on est quelques-uns de comiques sur cette radio. J'en fais partie aussi. Hein. Ouais, je ne rêvais pas.
Hein. On peut
qu'est-ce que j'ai mis de comique, moi ? Pourquoi suscité
Je sais pas.
Parce que tu fais rire notre auditeur. Il a bien raison de rire.
Alexandre, on embrasse.
Très bien. Bravo, Alexandre. Belle analyse.
Accueillons Florent Germain, notre correspondant à Marseille. Salut, Flo.
Salut, les amis. Salut à tous.
On revient sur la première défaite de la saison pour l'OM, battue 2-0 à Monaco. Ça a mis en lumière les lacunes marseillaises, le peu de talent offensivement, la défense trop fragile, le manque de solutions sur le banc. Ce sont les conséquences d'un mercato drastique. On en parle avec toi, Flo.
Un entraîneur pas inspiré, on peut rajouter aussi.
Parce que tu tiens à en parler et tu as raison, Duga, parce que tu n'as pas aimé les choix de Genesio hier, notamment la compo de départ.
Pas du tout,
Flo, qu'est-ce qui est attendu sur la fin de mercato ? Déjà, il n'y aura pas d'arrivée, mais il peut y avoir des départs et plusieurs départs. D'ailleurs.
Voilà, ça a été répété, presque assumé, le fait qu'il y ait zéro recrue. C'est assez dingue, mais c'est une réalité, hein, puisque l'OM doit vendre et espérait vendre encore 2-3 joueurs, ce qui paraît être quasiment mission impossible ou très délicate dans les 24 heures qu'il reste de mercato. En plus, on a touché du doigt hier les limites de l'effectif, hein, avec quelques absents. Paichao était officiellement touché à la cuisse. Il faut, je crois, avoir confiance en ce que disait Genesio. C'est vrai qu'il avait déjà une petite douleur pour le match contre Strasbourg. C'était pas uniquement lié aux discussions le concernant. Et puis en plus, la fragilité de Kondogbia, Nadi et autres. Donc on se dirige plutôt vers des ventes, même si il y a rien encore d'acté là, à 24 heures de la fin. Emerson, faudra surveiller le cas du latéral italien, puisque il y a toujours des discussions avec Santos. Quinten Timber, bon, je pense qu'on l'a tous vu hier, il a un peu la tête ailleurs. Il y a notamment des négos encore possibles avec Crystal Palace, donc on verra si Timber est amené à partir. C'est l'un des joueurs sur lesquels Genesio avait compris rapidement qu'il risquait de ne pas pouvoir compter sur lui cette saison. Et puis il y a le cas Igor Paichao. Là, je pense qu'on peut inviter les supporters à avoir à faire preuve encore de beaucoup de prudence, parce que la tendance actuelle, à l'heure où on parle, 18h08, ce serait qu'il reste, parce que les négos sont compliqués avec Sunderland. Le staff veut absolument le conserver, ce qui pèse aussi dans l'esprit des dirigeants, qui ne veulent pas non plus, alors qu'il y aura zéro recrue, priver l'OM de l'un de ses meilleurs éléments. Mais malgré tout, voilà, faudra surveiller une éventuelle offre à plus de 35-40 millions d'euros sur laquelle l'actionnaire Franck McCourt ne pourra pas dire non. Donc prudence encore sur le cas Paichao. Et d'ailleurs, il y a une petite rumeur aujourd'hui sur un intérêt de la Juve pour Pierre-Emile Heuberg. D'après nos infos, c'est pas le cas pour le moment. Il n'y a pas de contact entre la Juve et l'OM pour Pierre-Emile Heuberg.
Flo, merci pour toutes ces infos.
Vas-y,
je t'en prie.
Je peux poser des questions à Flo, parce que je l'ai posé la semaine dernière dans le Moscato Show, mais personne n'était capable de me répondre. Les sous qui doivent faire rentrer Flo, c'est avant la fin de la saison, avant Noël, avant la fin du mois, c'est quoi l'histoire là?
J'avais essayé de répondre prudemment à cette question-là, ce qui est pas évident, puisqu'on a différents sons de cloche. Nous, ce qu'on a écrit dès le mois de juillet, et on va rester là-dessus, c'est qu'en fait l'OM s'est engagé à baisser sa masse salariale sous les 100 millions d'euros. Elle était de 160 millions d'euros la saison dernière. Cette saison.
Non, mais ils ont,
en fait,
ils ont
l'enjeu, c'est la masse salariale.
D'accord.
Non.
Ils ont
pour recruter.
Jusqu'à la fin de la saison.
Pour recruter.
Pour revenir à 100 millions ou...
Non, pour recruter cet été. C'est-à-dire qu'il fallait arriver sous les 100 millions là.
De masse salariale à la fin de l'été.
Pour pouvoir recruter.
Je sais pas encore avec les départs de Greenwood, Medina, Rouli, Traoré, Balerdi, etc. Où on en est. Mais pour le moment, c'était l'engagement qu'avait l'OM pour pouvoir.
Non mais la question que j'essaie alors je vais te la poser autrement. Est-ce que si il y a pas de vente là et qu'il commence la saison comme ça, est-ce que si il descend de la masse salariale à Noël puisqu'il y a un autre marché des transferts, est-ce que c'est bon, est-ce que ça marche?
Bah ce sera bon pour rouvrir une période de mercato hivernal où l'OM pourra recruter. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que dans le même sens, pourquoi... non mais ce sera pas définitif, mais dans le même sens, il y a des négos pour baisser le salaire de certains joueurs. Mais quand on dit baisser le salaire de certains joueurs, attention. On n'est pas dans le social, c'est étalé sur la durée. C'est-à-dire que certains joueurs qui ont des contrats qui prennent fin dans un ou deux ans, on risque
tu vas rajouter
de
deux
les prolonger
ans et...
pour étaler ces salaires dans le temps.
Ouais, comme ça avait été le cas il y a quelques saisons avec Dimitri Payet.
Exactement. C'était le cas dans la période post-Covid.
Non mais parce qu'on avait l'impression qu'à la fin du mois là, s'ils n'avaient pas vendu, Marseille se détachait de la France. Donc là c'est un peu plus clair là quand même. Oui, c'est
Flo,
ça
n'a rien à voir.
Mais c'est plus tard.
Un grand merci.
Et Flo, la dernière question Flo, à Guerd, on en est où? Parce que hier il est rentré. Est-ce que lui aussi est susceptible de partir ou grande chance de rester?
À Guerd, c'est un peu le même cas que des Pai Chao ou Timber. Évidemment, s'il y avait une offre de dernière minute, mais ça semble compliqué dans le sens où vous l'avez vu, il fait des entrées pour le moment parce qu'il est dans un protocole de reprise. Et donc c'était le cas pour la Real Sociedad. Il y a des clubs qui s'intéressent à lui mais qui estiment que c'est un petit peu trop risqué, comme il revient de Pubalgie, de tout de suite compter sur lui. Donc à Guerd, il y a quand même une possibilité qui reste, même si ce sera un dossier du mercato hivernal s'il reste cet été.
Grand merci à toi Flo.
Merci Flo.
Et je précise que demain on a un Roten sans flamme spécial mercato. Fabrice Hawkins ne bougera pas de ce studio. Vous aurez toutes les infos en temps réel parce que le marché en France se ferme demain à 19h59.
On n'a pas au bout de nos surprises en France.
Roten sans flamme spécial.
Il n'y a pas qu'à Marseille que tout est à vendre.
Le sujet du soir, c'est donc le mercato compliqué, les finances compliquées à l'OM qui est toujours sous la contrainte des restrictions exigées par l'UEFA à la DNCG. Sous l'exigence, on l'a entendu avec Flo, de Franck McCourt qui a fermé le robinet après avoir injecté déjà 120 millions d'euros cette année. C'est donc la question qu'on pose ce soir dans Roten sans flamme. À quoi joue McCourt avec l'OM? 32-16, supporter marseillais, pour en débattre avec nous. Jérôme, tu veux dire un mot du match du soir d'hier soir d'ailleurs sur Monaco Marseille?
Oui. Bon, parce que bon, déjà c'était dans la globalité. Hein, je parle des deux équipes. C'était pas le match de l'année. Hein, bien sûr qu'à Monaco, il y a des individualités qui ont brillé et qui ont permis à Monaco de gagner. Mais il y a aussi des manques dans cette équipe. Ça a donné un match outre l'ambiance, parce que quand t'as une tribune comme ça qui est fermée, déjà que Monaco c'est pas forcément tout le temps un chaudron au stade Louis II. Mais là, avec la tribune fermée en face, là, la tribune latérale, c'est problématique dans l'atmosphère, dans ce qu'on ressent quand on regarde un match de ce niveau-là. Et ça a joué sur la qualité du match, c'est une certitude. Après, beaucoup de déchets techniques de part et d'autre. Donc oui, c'est pas le match de l'année. Après, en effet, et moi je suis assez d'accord avec Bruno Genesio sur son analyse. Dire dans les moments forts, Monaco a marqué dans ces deux moments forts. Après, ça, ils ont fait jeu égal, sans forcément se sublimer offensivement. Mais ça, c'est dû aussi à tout ce qu'on disait avec Flo et tout ce qu'on constate depuis le début de ce mercato, le fait de pas avoir de recrues, d'être privé de leur meilleur joueur, Pat Chao. C'est la vérité. Aujourd'hui, c'est leur meilleur joueur, c'est le joueur qui peut créer plus de jeux que les autres, de donner les clés du camion à Harit.
C'est plutôt Guiri le meilleur joueur, non?
Ouais, Guiri dans la finition, mais je pense que dans la créativité, je trouve que Pat Chao, il se passe des choses, il déclenche des choses. Alors après, bien sûr qu'on peut jouer, t'as raison, du gars, sur le niveau des deux. Guiri est un joueur qui a montré qu'il pouvait être décisif aussi. Mais tu confies.
Pas plus de certitude avec lui qu'avec
quand Pat Chao n'est pas là, et c'est pour ça que je disais, moi, il y a encore quelques jours, que Pat Chao, ça serait vraiment problématique de le perdre. C'est que tu t'aperçois sur le match d'hier que les clés du camion, offensivement, tu les files à Harit. Mais Harit, il n'y a aucune certitude. Ouais. Du moins, Harit, depuis le début de sa carrière, il est
encore plus quand tu le fais jouer soit à droite, soit à gauche.
En plus, voilà.
Oui. Encore plus.
Encore plus. Donc, je trouve que il est très rarement dans le sens du jeu. Alors oui, il est capable de fulgurance, de dribbler un joueur, deux joueurs, de placer une frappe de temps en temps, mais c'est largement insuffisant pour avoir les clés d'une équipe comme l'Olympique de Marseille. Et donc, à travers ces choix-là, et choix par défaut, malheureusement pour Bruno Genesio par rapport à l'effectif, effectif, bah tu t'aperçois que l'OM, mais ça on le savait avant, que l'OM n'a pas une équipe pour annoncer tout de suite qu'ils vont être dans les trois du championnat. Par contre, en effet, avec cet effectif-là, je trouve que c'est problématique de pas avoir ramené de sang frais. En effet, de la fraîcheur et tout ça, quel que soit le niveau des joueurs, parce que là c'est pareil, tu vas recruter, mais tu vas pas recruter forcément des cadors.
Tu vas pas recruter.
À partir de là, et je finis là-dessus. À partir de là, il faut s'attendre à avoir un Olympique de Marseille face à des équipes qui sont censées jouer une place en qualification directe en Ligue des Champions, bah des vrais problèmes comme on a vu hier. Mmh. Hier, il y a même si Monaco n'est pas un grand Monaco, il y a pas photo malheureusement. Ouais. Et je pense qu'on va être habitué à voir l'Olympique de Marseille comme ça très souvent cette année.
Duga, sur le match et le contexte global.
Non mais alors moi sur le match je trouve que Genesio est totalement passé à côté de son match, de sa compo d'équipe au départ.
En plus,
il a reconnu lui-même ça manquait de percussion, ça manquait de jeu dans les couloirs. OK, il lui manque des joueurs. Moi entendre toute la saison
sur le banc là.
Timber ailier gauche, pour moi c'est pas possible. Harit tu veux le mettre, fais un milieu de terrain à 4, mais Harit devant avec Guiri, mais le colle pas sur un côté. Moi le petit Angel Gomez qui se retrouve avec des ballons long ou faire des déviations de la tête. Non mais à un moment ou l'autre, tout le monde, c'est-à-dire que c'était du n'importe quoi. Moi je veux bien que ce soit compliqué et que il y a certaines obligations, mais Genesio il a le droit d'être inspiré. Alors on est là pour faire l'analyse aussi du match. Il y a plein d'explications, il y a plein de choses qui expliquent ça, mais il a quand même des joueurs pour proposer autre chose que ce qui s'est passé quand même hier. Moi je trouve que sur le banc de touche, il a quand même réussi à faire rentrer des mecs. Le petit Nadi là, bon, il sait jouer au football. Le petit Adela, quand il est rentré, c'est un bon joueur. Argerd, c'est international. Mopé, il a montré qu'il savait marquer des buts. Mumbagna, enfin c'est des joueurs de foot quand même. Arrêtons de me faire croire qu'ils ont absolument
sur le
personne
terrain. Aussi
personne.
C'était des joueurs de foot.
Eh ben
sauf
voilà,
quand ils rentrent sur le terrain, eh ben du coup ça ne devient plus. Donc non, ne crois mais, pas mais, que mais ceux déjà, qui sont sur le banc auraient fait mieux. On les a vus, ils ont déjà joué, ceux qui sont sur le banc.
Quand tu peux pas recruter, quand tu as la tête dans le seau, quand tu as la moitié des joueurs qui veulent partir, au moins mêlés à leur poste. Tu sais que c'est pas sûr qu'ils ont envie de jouer, tu sais pas s'ils vont rester. Au moins mets les mecs dans leur poste, mais ne m'aligne pas des joueurs sous prétexte que ils ont une étiquette de bons joueurs ou de j'en sais ce que tu veux. Et c'était du grand n'importe quoi. Le milieu de terrain de l'OM hier, c'était totalement affligeant. Donc je voulais quand même le dire, c'est pas un enseignement définitif. Moi Genesio, je suis un pro Genesio, je pense que c'est un excellent entraîneur qui fera du bon travail à l'OM. Mais j'ai pas non plus envie d'entendre à chaque fois, il y a pas de recrues, il y a pas ci, il y a pas ça. L'effectif on le sait, il est comme ça, il est machin. Tu vas encore perdre peut-être un ou deux joueurs. Pour l'instant, je pense que l'OM est capable de proposer autre chose après une belle victoire face à Strasbourg, pleine de confiance, me sortir ce genre de match-là. Moi, j'étais terriblement déçu. Tu peux perdre à Monaco, il y a pas de problème. Mais de cette façon, j'étais quand même malgré tout terriblement déçu. Après, qu'est-ce qu'il fait le président ? Le président, il sauve les meubles. Moi, je te cache pas, je suis partagé entre les deux avis. Moi, je suis un peu choqué que le président, le propriétaire, du jour au lendemain, il coupe les vannes. Voilà. Moi, je suis un peu choqué de ça.
C'est sûr.
Voilà. Moi, je suis un peu gêné par rapport à ça. Il a commis énormément d'erreurs.
En plus.
Voilà, moi ça me dérange. Ça me dérange car il a perdu 700, 800 millions d'euros. S'il les a perdus, c'est aussi sa faute. Il a des casse-tout.
Oui, voilà, il a des casse-tout. Il les a pas perdus. Oui. Il les a mis. Oui, il les a investis. Pareil.
Oui.
Ah, c'est comme à la bourse, ça. Tant que tu n'as pas retiré tes sous, tu ne sais pas ce que tu as perdu.
Donc là, il a remis 125 millions d'euros il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est à lui. C'est-à-dire, quand il est arrivé avec son argent, mais j'espère aussi qu'il est arrivé avec sa compétence. Donc si tu montres autant d'incompétence, tu as perdu l'argent que tu as mis, ou peut-être que tu vas en récupérer un peu plus tard. J'en sais, mais la situation, les 20, 30 transferts en cours de saison, il les a vus. Il n'était pas aveugle. Il ne vivait pas sur la lune. Donc il a vu ce qui se passait. Il donnait son accord à chaque fois. Donc aujourd'hui, couper les vannes de cette manière, je trouve ça un peu fort de café. Voilà, moi je trouve que il est pas à la hauteur de son engagement. Il a été au début, mais il a fait des conneries. Et là, je trouve que ça va un petit peu trop loin. Voilà.
Je vais même plus loin sur ce que. Après, je parlerai un peu de match, mais je vais même plus loin sur par rapport à ce que tu viens de dire. En plus que il a laissé faire, il a soutenu et conforté les gens qui faisaient ça.
Vous vous en souvenez hein, que chaque fois, il donnait la confiance quand il y avait des débats. Donc, moi, je veux bien que... Donc, voilà. Bon, après, ce qu'il fait de ce club, je sais pas où il veut aller. Moi, je me bats contre le fait qu'on dit il a perdu 800 millions parce que tu ne perds que quand tu revends, comme à la bourse. Et donc, on sait pas ce qui va se passer. Et on ne sait pas aussi ce qu'il a gagné en contrepartie aussi. On le sait pas. Mais bien sûr que moi, je ne critiquerai jamais l'investissement de cet homme. Parce que à l'époque, quand il est arrivé, il y avait deux choix. Il y avait Gérard Lopez et lui. Hein. Ouais. Et Gérard Lopez était très avancé. Ouais. Je voulais peut-être jamais raconter, mais quelqu'un m'avait appelé à l'époque pour me dire que c'était fait et que il se renseignait pour savoir si je voulais retravailler dans le foot. Tu vois, bon, j'ai dit non parce que je voulais pas. Moi, je connaissais pas l'homme. Mais à l'arrivée, quand il y avait ces deux choix, je peux te dire que le choix malgré tout a été le meilleur, même si aujourd'hui on souffre. Voilà. Ouais. Non, mais c'est la vérité. C'était moi, me l'avait annoncé fait, avec et il cherchait à constituer son équipe dirigeante. Voilà, donc ça c'est le premier truc. Après, par rapport au match hier soir, il se trouve que j'étais au stade, je vais rarement au stade, je me suis ennuyé d'une force terrible, et comme vous le disiez, j'étais d'accord avec vous, à aucun moment j'ai pensé que l'OM pouvait gagner, voire retourner ce match-là. Sauf que ce matin, j'ouvre, et moi vous savez que je suis pas un grand fan des stats, ce matin j'ouvre l'équipe et je regarde les expected goals, donc c'est pratiquement similaire, ouais. Les tirs, c'est pratiquement similaire, oui. La possession, mais je dis pas que, j'essaie pas de minimiser.
La faiblesse. Fais confiance non, à ton mais impression oui, non, mais, d'ancien joueur, mais non, Eric.
Mais, tu me laisses pas finir, Benoît. Vas-y. Tu me laisses pas finir, donc si tu me laisses pas finir, interprète comme tu veux ce que je suis en train de dire. Mais laisse-moi finir, comme vas-y. Ça peut-être que je dis pas ce que tu croyais que j'allais dire. Voilà, donc l'impression que j'avais, c'était que c'était impossible de le gagner, voire de revenir dans ce match-là, et aujourd'hui, non mais c'est pour aller dans le sens de ceux qui nous expliquent que les stats c'est la vérité. Ah oui. Mais non, les stats c'est pas la vérité. Possession de l'OM 65%. Oui. Voilà, les mêmes nombres de tirs et les mêmes nombres de spectacles duels. Donc arrêtez de me parler de ces conneries, parce que le match hier soir, tu peux le jouer pendant 4 jours. Jamais l'OM ne revient dans ce match. Ah ouais, jamais. Vrai. Et je pense même que tu en prends d'autres. Parce que même si l'AS Monaco n'a pas eu de beaucoup d'occasions, le déficit de la défense centrale par rapport à ce gamin que je ne connaissais pas. Et le mec, il a pris tous les ballons de la poitrine, il les a tous gardés.
Il les a
emballé à droite à gauche, et puis alors il a fait un petit tourne-retourne comme le steak sur le deuxième but. Moi, quand je vois ça, je te jure, si un mec qui me fait ça, on en a pris des crochets, on s'est fait mettre dans le vent, mais autant de fois dans un match. Sauf que tu finissais dans la fosse, tu sais qu'il y avait au stade de Vélodrome. Voilà, et tu peux mais à un moment donné, il y a pas une rébellion.
Donc bien il a la même hanche que toi ce matin.
Il y a pas de rébellion quand tu te fais
revient et c'est pour ça que c'était pas anodin ce que je posais comme question sur Aguerd à Flo, parce que quand tu vois Aguerd est une vraie solution et même une urgence.
Non, mais Aguerd, s'il reste, c'est un recrutement. Il n'a jamais joué l'an dernier.
C'est pour ça. Et quand tu vois la faiblesse, parce que, en effet, et là, je suis d'accord avec vous, dans l'analyse, tu peux regarder les datas, les stats, ou dire ils ont fait jeu égal. Oui, dans le milieu de terrain, il n'y a pas de souci. Mais Monaco a été clinique. C'est-à-dire, Monaco, il y avait un vrai plan avec son entraîneur. Vous ne prenez pas de risque dans les premières relances. Vous jouez long sur Brumeur. Et Brumeur, il a fait le match de sa vie. C'est vrai. Il a mis les deux en difficulté. Pourquoi? Parce que tu le savais avant. Gagne Riley. Franchement, on n'a pas attendu le match d'hier pour se rendre compte qu'il n'est pas du tout du niveau de la Ligue 1.
La saison dernière.
Kondogbia, on nous vend à 32 ans ou à 33 ans que c'est un grand défenseur central. Il a joué toute sa vie au milieu de terrain.
Et Monaco, ils ont d'ailleurs qui n'a pas joué la saison dernière parce qu'il était nul. Il se retrouve titulaire parce qu'il n'y a plus personne. Et impossible et incapable de le mettre en danger aussi.
C'est vrai.
Mais du coup, par rapport à. C'est pour ça que par rapport à ce que tu dis, Jérôme, bien sûr qu'il y a quand tu es supporter de l'OM, ben là ce matin tu te demandes comment ça va se passer, tu as le moral à zéro. Si Aguerd y reste et qu'il retrouve un corps de sportif de haut niveau avec la tête au club, parce que l'an dernier entre la CAN, il y avait la CAN l'an dernier entre la CAN et la Coupe du Monde, je suis pas sûr qu'il ait eu toute l'année la tête au club. Mais s'il retrouve son niveau physique, alors j'ai la réponse, hein, mais vous croyez pas que
chez les jeunes, il n'y a pas un gamin qui peut venir jouer à côté d'Aguerre, qui est quand même un vieux routard et qui a beaucoup de qualité pour moi. C'est-à-dire, il va vite, il est bon de la tête. Voilà, c'est quand même un joueur de ballon. Tu vois, il n'y a pas un jeune
au sein de formation pas,
capable de faire, Eric, capable de faire mieux qu'Egan Riley, que Cornelius, que Kionan, tu vois. Voilà, parce qu'il n'y a plus que,
Ulysse Garcia qui va remplacer.
Mais Ulysse Garcia, c'est plutôt côté gauche. Voilà, voilà. Non, mais à la limite, Ulysse Garcia, bon, mais c'est, pourquoi pas. Mais non, mais moi, le problème à l'OM depuis des années, je croyais qu'il allait être réglé l'an dernier avec Medina, Gert et tout, il n'a pas été réglé. Mais si c'est pour avoir une équipe moyenne, on peut être une équipe moyenne avec un jeune qui vient épauler à Gert, tu vois. Exactement. De ne pas voir les mecs comme moi. T'as qu'à faire. Pour
limite, on va regretter Balerdi, là.
Ouais,
je plaisante.
Ouais, c'est vrai. Ça vous fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Voilà pour l'OM, les infos à retrouver sur rmcsport.fr, la fin de Mercato demain, 19h59.
Il n'y a rien.
RMC, Rotten sans flamme, spécial Mercato, donc demain. De 18h à 20h. Le direct, c'est donc l'US Open, l'entrée en lice de notre grand favori, Eric Salio, Arthur Fils, opposé au grec Stefanos Tsitsipas. Salut Eric.
Salut à tous. Effectivement, c'est un match qu'on attend avec beaucoup d'impatience et je rassure tout le monde, ça se passe bien pour Arthur Fils, puisqu'il mène déjà 6-4-4-1 face à Stefanos Tsitsipas qui a plongé au classement. Premier set a été un petit peu tendu, il y a de la crispation parce que tu débutes dans un grand chelem, c'est un cours qui est très grand, qui est très brillant, et je pense qu'il a mis du temps à prendre ses repères, mais une fois qu'il a pris le premier, bien, il est en train de dérouler. Donc 6-4-4-1.
Voilà, il est favori pour l'US Open maintenant.
Bah là, oui, c'est tout droit.
Non. 7, c'est tout droit.
Et bah l'outsider. Il a quand même un tableau qui est pas facile. Je
il va toucher, il va les manger. Il va les manger.
Bon, on se retrouve dimanche prochain pour Shelton.
On a le prochain, le futur Yannick Noah, il est là.
Il est là.
Jérôme, allez, tu es convoqué. On va aller tourner la roue. On rappelle, c'est la prime de rentrée RMC. La cagnotte s'élève pour le moment à 31 750 euros. On va rajouter la somme désignée par la roue. Jérôme Rotten vient de la lancer. On dirait la routaine tellement elle tourne bien. C'est incroyable.
J'ai de la force, ça tourne.
Et tu te rends compte, plus de 30 000 euros pour l'instant. Somme à laquelle on va rajouter 1500 euros en plus. Incroyable. 1500 euros en plus dans la cagnotte, Jérôme. 31 750 plus 1500, ça fait combien?
1500. Il faut jouer, ce soir. Il faut jouer, là. Attends, franchement.
33 250 euros. Tout à fait. 33 250 euros à gagner sur RMC. Vous avez 10 minutes pour envoyer prime par SMS au 732-16. Prime au 732-16. Il est 18h27. Vous avez jusqu'à.
Allez, mon père, il a déjà appelé.
18h37.
Ça y est.
Et ben voilà, il a bien raison. Dans un instant, un grand procès dans Rotten sans flamme. Le procès de tous ceux qui militent pour une présence d'Esteban Le Poll en équipe de France. À tout de suite sur RMC.
RMC. Jusqu'à 20h, Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans Rotten sans flamme, on est déjà à la deuxième demi-heure de Rotten sans flamme. Faites attention sur la route, vous êtes nombreux à nous écouter. On est là jusqu'à 20h avec Eric Dimeco, Christophe Dugarry, Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h à 18h45, Benoît.
On va parler du Real Madrid et de la calinothérapie de José Mourinho. Il encense ses vedettes, Bellingham, Mbappé, pour l'instant tout marche.
9 sur 9.
9 sur 9.
C'est la seule équipe, peut-être Barcelone ce soir.
On verra le Barça ce soir, tout à fait. On parlera de ça. Et puis à 19h, le dossier chaud Mercato de la soirée. En tout cas, un dossier qui est en train de se concrétiser. La prolongation d'Ousmane Dembélé à Paris. Est-ce que Paris a raison de prolonger Dembélé? On vous attend au 32-16 pour en débattre. Je précise qu'Arthur Fils mène 6-4-5-2 au premier tour de l'US Open contre Stefanos Tsitsipas. Et qu'il vous reste 4 minutes pour envoyer prime par SMS au 7-32-16. Prime au 7-32-16. Grâce au grand Jérôme Rotten, la prime s'élève désormais à 33 250 euros. Donc envoyez tout de suite prime par SMS au 732-16. Tout de suite le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
Zizou, tu voyais qu'il avait un truc, il jouera aujourd'hui à 18 ans, Zizou.
Non.
Il jouerait en Ligue 1, il serait titulaire.
Et non,
c'est faux. Tu dis non, mais c'est moi faux. Je dis oui, qui c'est qui a raison?
Ah, mais c'est moi,
oui, c'est fort.
Mais c'est moi.
Toi, c'est fort. Parce que toi, tu as dit. Ah, bah, parce que quoi?
Parce que c'est le plus fort, les arguments.
Oui, mais non,
parce que je l'ai connu. Parce que je l'ai connu.
Tu l'as connu de quoi? Mais tu l'as connu dans un autre football.
Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais il était. Je m'entraînais tous les jours avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes? Arrête de faire du bruit.
Le procès de Rotten sans flamme.
On ne sait toujours pas qui a eu raison.
Arrête de faire du bruit.
Moi, je confirme ce que j'ai dit à l'époque. Surtout dans cette Ligue 1 aujourd'hui, encore plus.
Et toi, Duga, tu confirmes ce que tu as dit à l'époque?
Allez, sujet suivant. Allons-y.
Parlons donc d'Esteban Le Poll, qui a encore inscrit.
Arrête de faire du bruit avec ta bouche, du gars, s'il te plaît. Arrête.
Le doublé de Le Poll avec Rennes contre Le Mans. Il est déjà à 3 buts cette saison, co-meilleur buteur du championnat. C'était lui le meilleur buteur de Ligue 1 la saison dernière avec 21 buts. Il a 26 ans. Il a annoncé qu'il connaissait la date d'annonce de la première liste de Zizou. Ce sera le 17 septembre prochain. Il fait face à une forte concurrence, mais ça, on en a beaucoup parlé dans Rotten sans flamme. On va ouvrir le procès de tous ceux qui militent pour Le Poll en équipe de France avec deux procureurs ce soir. Christophe Dugarry, bonsoir.
Bonsoir.
Et Eric Dimeco, bonsoir.
Bonsoir.
L'avocat des militants pour Le Poll. C'est maître Jérôme Rotten, bonsoir.
J'aime bien quand tu présentes comme ça. Ouais, bonsoir.
Je savais que tu étais militant.
Ouais, c'est Evan qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Evan.
Bonsoir.
Salut Evan.
Bonsoir. Bienvenue.
Bonsoir Evan.
Bonsoir.
Bon Eric, pour toi c'est trop tôt pour Le Poll en équipe de France.
Non mais je vais reprendre texto ton titre de débat. Oui. Tu dis contre ceux qui militent. J'en ai marre, voilà, des militants. J'en ai marre parce que maintenant on milite pour le Ballon d'Or, on milite pour envoyer un mec en équipe de France. Ça va se faire naturellement. Si ce gamin il flambe autant qu'en Ligue 1, en Coupe d'Europe, ça viendra naturellement. Pourquoi on milite pour que un garçon qui a mis beaucoup de buts en Ligue 1 et c'est génial et en plus il confirme, donc il y a pas de souci. Mais alors je sais pas dans quel état d'esprit sera Zizou. Moi, je crois le savoir, mais Dugas nous le dira sûrement tout à l'heure. Par contre, connaissant Didier, et on l'a souvent dit, Didier, mec qui flambe en Ligue 1, il va porter attention, mais par contre, il va falloir que le mec il flambe en Coupe d'Europe. Alors encore plus en Ligue des Champions. Quand tu flambes en Ligue des Champions, c'est que tu es pas loin du niveau international. Donc là, à un moment donné, tu es vu. Mais là, c'est pas le cas encore pour ce petit. Donc on va le laisser faire. On va le laisser marquer des buts. Qu'il en marque 50 dans l'année, dans toutes les compétitions, je serai le plus heureux. Et il sera appelé naturellement. Mais pourquoi militer? Ça veut dire quoi militer?
Parce que
c'est pas assez du sport là. C'est du foot là.
C'est un numéro.
On fait le défilé de curiosité, quoi. C'est les cirques d'avant, quoi.
34 matchs à Rennes, 23 buts. C'est quand même.
Mais oui, mais non, mais il y a pas de on nie pas ça. Je dis juste que arrêtez de militer. On a un sélectionneur national qui lui a un projet dans la tête et qui a des joueurs dans la tête et que peut-être, comme Didier, il veut que ce garçon-là soit testé au niveau au-dessus. Il y a un gouffre entre la Ligue 1 et le niveau international. Il y a un gouffre. Voilà, si tant que vous comprendrez pas ça, vous continuerez à militer et peut-être que ce gouffre pour lui, il est pas si grand que ça. Je le sais pas moi, mais je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, du gars toi.
Non, mais t'as bien fait de préciser, Eric. Voilà, c'est là, pour moi l'argument massu, c'est celui-là. Le niveau, il est abyssal entre le niveau de la Ligue 1 et le niveau international. Alors après,
pourquoi il a tapé l'autre le marteau que j'ai fini.
Tous ceux qui ont envie de militer et qui connaissent pas la différence entre les deux, écoute, c'est bien dommage. Et puis je crois qu'il y a une certaine exigence au niveau de l'équipe de France aujourd'hui. Au niveau les critères pour intégrer l'équipe de France, c'est un critère d'excellence au plus haut niveau. Et la Ligue 1, quoi qu'on en dise, et on le voit tous les week-end, ce n'est pas le plus haut niveau du football européen et mondial. Donc aujourd'hui, si tu veux être sélectionnable en équipe de France, il va falloir te frotter au meilleur niveau international. C'est aujourd'hui la marche à franchir, c'est la marche à monter pour aujourd'hui faire partie de cette équipe de France, parce qu'en plus les joueurs, comme on l'a dit et redit, qui sont en place, et bien eux aussi sont performants dans leur club, au niveau international, au plus haut niveau. Donc moi aussi j'ai hâte de voir ce petit garçon Le Poll, et le jour où il y sera avec les armes étoffées, avec un joueur encore plus, les épaules encore plus larges, et pas seulement parce qu'il a marqué 23 buts en Ligue 1. Il a besoin encore d'arriver avec une pleine confiance, avec une pleine maturité, avec encore plus de certitudes, et ces certitudes que tu peux encore acquérir, ça va être avec la Coupe d'Europe, avec la Ligue Europa, avec la Ligue des Champions, et tout ce qui va venir avec. Ça sert à rien de précipiter les choses. Qu'est-ce qui vaut mieux? Qu'il arrive à maturité quand il aura un bagage un peu plus lourd, avec un peu plus des références au niveau international et qui casse la baraque, ou qui viennent maintenant et parce qu'il y a des militants qui comprennent rien au ballon et qui savent pas la différence entre la Ligue 1 et le niveau international et qui se casse la figure? Personne n'a envie que ce garçon se casse la figure. On n'est pas là pour militer, pour dire ce serait bien qu'il y aille maintenant, mais pour changer quoi? Pour faire plaisir à qui? Pour faire plaisir à trois Pimpoy qui militent sur les réseaux sociaux? Mais qu'est-ce qu'on en a à carrer? C'est pas ça le but.
Jérôme Pimpoy,
c'est pas Jérôme. Et défendre les militants comme toi, Jérôme.
je l'ai parlé.
Non, on a tous envie que ce garçon réussisse. En plus, il a l'air sympathique comme tout. Il n'y a pas de problème. Mais on a envie qu'il y arrive. On n'a pas envie de lui casser les jambes ou de lui casser le moral parce que les choses vont mal se passer dès le début si la marche elle est trop haute. Je le souhaite pas ni pour lui ni pour l'équipe de France.
Jérôme.
Non mais alors après je suis tu vois c'est rare mais je suis totalement d'accord avec l'avis d'Eric et du gars. Mais n'empêche que il y a un critère qui ils ont pas pris en compte, c'est que le critère de sélection c'est ce qu'on a vécu nous. Pour être en sélection, en effet, Eric, t'étais bien avant moi, Duga aussi avant moi, et moi je l'ai vécu et c'était la fin de cette génération-là de vivre ça. C'est-à-dire que il fallait faire des bons matchs dans notre championnat domestique, quel que soit le championnat, que ce soit la Ligue 1, la Serie A, le championnat espagnol, anglais, allemand, il y a pas de souci. Le fait de dominer ton championnat domestique, d'avoir des bonnes perfs, te donnait en effet l'opportunité de jouer des matchs de Coupe d'Europe. Parce que les équipes sont qualifiées. Souvent, nous, on disait il faut mieux jouer la Ligue des Champions, c'est le plus haut niveau, qui est même supérieur au niveau international, tu vois. Et quand tu brilles dans cette compète, là, tu peux être amené à être en convocation avec ton équipe nationale, en l'occurrence l'équipe de France. Mais ça, c'était jusqu'à l'arrivée de Raymond Domenech. Et je l'ai vécu. C'est pour ça que je suis complètement transparent avec vous. J'ai vu des joueurs arriver qui avaient 15 matchs, 20 matchs de Ligue 1 seulement. Ouais. 20 matchs de Ligue 1 arrivés au niveau international, où là, tu jettes la pièce en l'air. Alors là,
on a vu le résultat.
Ouais. Bah, il y en a certains qui ont réussi, Dugas, à s'imposer. D'autres qui ont disparu. On est d'accord. Mais derrière, et là, ma grande surprise, ça a été la continuité avec Laurent Blanc et avec Didier Deschamps. Et en effet, moi, des fois, je comprenais pas que Didier prenne des joueurs qui n'ont pas participé à la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions.
C'est arrivé, ouais.
Et briller. Et c'est arrivé plein de fois. Ouais. Plein de fois, tu regardes. Donc, pourquoi faire une exception? Parce que c'est le Paul. Ben voilà. Parce qu'il joue que en Ligue 1. Parce qu'il est meilleur buteur de la Ligue 1. En effet, sa progression.
Pourquoi on peut te l'expliquer pourquoi?
Ben, vas-y, pourquoi?
Ben, ma foi, on est tous d'accord et pas que nous. Le monde du football envie l'effectif offensif que l'équipe de France a.
Et tous les joueurs
de cette génération.
Non, mais, attends.
Eric,
je suis pas. Je suis pas en train de te dire sur.
Non, mais sur. Ah, oui, non, mais, non, si vous voulez qu'on fasse. Mais s'il est appelé, on est content.
Eric,
pas de souci.
Moi, je suis d'accord avec toi. La concurrence, elle est forte. Et en effet, moi, je suis pas comme toi, Benoît, à essayer de minimiser les performances en club de Thuram. Mateta, c'est différent. Mais Thuram, il est meilleur buteur. Il a été très
Thuram,
souvent meilleur.
Il a mis 13 buts l'année dernière.
Non, mais il a marqué beaucoup de buts avec
l'Inter. Mais que le poil aille mettre 13 buts.
Voilà, exactement.
En Serie A, toi, tu crois que quoi? C'est quoi ton Serie A?
Non, mais.
Mais donc,
tu sais, Eric, c'est pas. Non, mais ne réponds pas à Benoît là-dessus. C'est pas du tout, parce que là, t'as entièrement raison.
Non, mais moi, je veux. Non, mais moi, je. Non, mais c'est sûrement Benoît Boutreau qui a raison.
Mais non,
la Serie A.
Non,
on n'a aucune preuve, nous. C'est
non,
toi, tu les as, toi, par contre.
Eric et Benoît, ce que je veux dire, c'est que le Paul, c'est un profil pas atypique parce que c'est un buteur, un serial buteur. Et il n'y en a pas eu beaucoup des serial buteurs, même en ce moment. Je pense qu'en effet, en équipe de France, il n'y a pas ce genre de profil aujourd'hui. Donc, c'est un profil qui peut donner un peu plus de possibilités à Zinedine Zidane. Et même s'il le prend dans le groupe et qu'il le fait pas jouer, je pourrais comprendre totalement. Mais essayez de voir. Et comme tu le disais, Dugas, c'est pas faire plaisir à la galerie, à non tous les.
Imagine si demain matin tu fais jouer le Paul et tu mets qui tu veux aujourd'hui.
Mais ça sera pas le cas. Ça sera pas le cas.
Tout le monde va rigoler.
Mais ça sera pas le cas, Dugas. Donc tu le sais très bien.
C'est l'heure du verdict.
Tu le sais très bien. Par contre, en effet, si tu expliques dans ton critère de sélection que le Paul. Peut-être qu'il est là, il va prendre de l'expérience à s'entraîner avec des joueurs de très haut niveau qui ont connu la Ligue des Champions, qui ont déjà tout gagné. Et le profil fait que ça peut te donner peut-être une solution et que tu le prends à la place d'un Mateta. Je dis juste Mateta, je pourrais en citer d'autres. Mateta qui, lui, joue à Crystal Palace. On parle pas de... attention, on parle pas de Chelsea, de Manchester United, de City, de Liverpool. On parle de Crystal Palace. Mateta, des matchs de Ligue des Champions, il en a fait zéro.
Exactement.
Non, donc tu pourrais te dire,
il a écoute, gagné la Conférence League.
Il a 30 ans, Mateta, lui il a 26 ans, le temps est un peu compté. Bah écoute, j'attends de voir et en plus il est bien reparti. Bah, voilà, c'est tout. Moi je trouve pas ça ahurissant de penser à Le Paul. Oui.
Qui remporte ce procès, Evan?
Ah, Jérôme, haut la main.
Haut la main. Ah ouais.
Ah bah oui.
Non, mais il y a un moment, je comprends pas l'argument de dire oui, il est pas encore en Ligue des Champions, il performe pas en Ligue des Champions, donc on le prend pas. Enfin, je suis désolé, moi je me rappelle encore, il y a des joueurs italiens il y a quelques années qui performaient dans leur championnat comme des Graziano Pelle, des Diamanti, etc. Et ça leur a pas empêché de performer avec la nationale. Donc,
tu vas pas comparer l'équipe de France avec l'Italie quand même, ça n'a rien à voir aujourd'hui.
C'est beau là ce que je viens d'apprendre là.
Aujourd'hui les Italiens, tu fais trois matchs en Serie A, t'es sélectionnable, ils ont pas eu joueur.
Ils seraient en sélection italienne, ça c'est sûr.
Mais bien sûr qu'ils seraient titulaires et meilleurs buteurs certainement.
Oui, peut-être même capitaine. Ouais. L'Italie d'une certaine année, tu sais ce que c'était le niveau quand tu performais en Serie A, qui était le meilleur championnat du monde, tu étais une référence.
Ils n'acceptent pas de bien sûr. Pourquoi Evan, t'as raison.
Ah mais non. C'est Jérôme qui gagne en plus avec facilité. Je veux bien qu'il gagne. Alors mais me dire qu'il gagne avec facilité. J'attendais l'argument massue.
C'est sûrement vous qui avez raison en plus.
Evan, tu rappelles quand tu veux.
L'avenir nous le dira.
Avec facilité. Ça, j'ai bien aimé celui-là.
Exactement.
Jérôme, il est surpris d'avoir gagné. Même lui, hein, Jérôme.
Ah ouais, même Jérôme, il ne comprend pas. Quoi.
Avec facilité, je suis un peu surpris. Oui. Mais
on la met. Ah ouais, non, alors là,
exactement. Excellente réflexion.
Bravo Evan. Jérôme, il a commencé son propos en disant ah non, mais je suis d'accord avec Eric et Dugas.
Et le mec, c'est son cousin qui a appelé. C'est la famille qui a appelé.
Écoute, j'étais obligé.
C'est la nuance qu'il a apportée.
Parce que là où je suis d'accord avec vous, et on finit là-dessus, c'est que le niveau, l'écart, il est abyssal entre un match juste Ligue 1 et un match de Ligue des Champions ou un match international.
L'effectif qu'on a devant.
Bon. Même. Merci à Evan.
Il y a eu un changement de programme. En deuxième heure, on devait faire un débat. Monaco est-il le dauphin naturel du PSG ? Imagine Monaco, le niveau de Monaco. Non, mais imagine la Ligue 1, ça va être
on regarde les autres aussi, c'est ça le problème.
Je regarde tous, t'inquiète pas, j'ai mal au ventre quand je regarde les matchs. J'ai mal de ventre. Oh là là, j'entends Ligue 1 Plus, ils me disent qu'à chaque fois c'est génial, c'est incroyable, c'est tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Je me dis, mais
par contre, ça, je suis assez d'accord avec toi parce que hier, c'est quand même ce qu'ils nous ont sorti. On a vraiment des belles équipes.
Sublime.
Allez, dans un instant, allô Jérôme, Edgar.
On a vraiment des belles équipes, ils ont dit.
On va parler du Real Madrid et des premiers pas réussis. Mourinho, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h50 sur RMC. On est là, on est bien, on finit la première heure de Rotten sans flamme. Magnifique émission avec Christophe Dugarry, Eric Dimeco qui se remettent de leur défaite au procès. Benoît Boutron, Benoît Boutron en grande forme en ce début d'année. Après 19h, on va parler
du Paris Saint-Germain.
Du Paris Saint-Germain,
de l'info de la journée.
Du double champion d'Europe.
Eh oui, la prolongation en très bonne voie d'Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain. Est-ce que le PSG a raison de prolonger Dembélé ? On vous attend au 32-16 pour en débattre avec nous. Où en est Arthur Fils à l'US Open, le premier tour contre Stefanos Tsitsipas, Eric Salio.
Tout à l'heure, on s'était quitté à 6-4, 4-1. Hein.
Ouais.
Bah, ça s'est compliqué. Je pense que c'est à cause de Jérôme. On est dans le tie-break. On est dans le tie-break de cette deuxième manche. Arthur Fils a perdu un peu sa concentration et Tsitsipas est revenu au score. Et ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que le grec a le mini-break dans ce jeu décisif.
Je parlais du grec, favori de l'US Open.
Donc 1-7-0 Fils et bon. Tie-break dans le deuxième. Donc je vous rappelle dans quelques minutes pour savoir s'il y a un 7 partout ou s'il y a 2-7-0.
Merci Eric.
RMC, Rotten sans flamme.
Este tio es increíble.
Mbappé est un type incroyable, je suis très content qu'il ait marqué l'histoire pendant la Coupe du Monde. Un seul sera, je pense, pour l'éternité, le meilleur buteur de l'histoire du mondial. Je le vois avec une fin énorme pour marquer l'histoire du Real Madrid également.
Allô Jérôme.
Et voilà les câlins de José Mourinho pour ses stars au Real Madrid. Il est revenu 13 années après son départ, il réalise des débuts parfaits. 3 matchs de Liga, 3 victoires pour les Madrilènes, 10 buts marqués, 2 encaissés. Bellingham et Mbappé au top, on peut en parler avec Edgar Grolot qui nous rejoint. Salut Edgar.
Salut Benoît, salut Jérôme, salut tout le monde.
Ça marche de câliner les stars quand on est Mourinho finalement.
Ouais, ça marche pour l'instant. Mais en tout cas, dès qu'il parle de ses stars, c'est pour être dithyrambique envers eux. Et sa plus grande obsession de communication, celle qu'il nous rabâche à chaque conférence de presse, c'est de dire oui, Bellingham, Vinicius et Mbappé peuvent jouer ensemble.
Des bons joueurs, il y en a beaucoup. Les très très bons veulent jouer ensemble. Ils veulent jouer avec des joueurs qui ont la même qualité, la même vitesse de réflexion, la même qualité dans la prise de décision. Ces joueurs doivent toujours être compatibles. Il faut que ça fonctionne toujours de la même manière. Avant d'arriver au Real Madrid, on parlait beaucoup. Mourinho ne veut pas de l'un, Mourinho ne veut pas de l'autre, Mourinho ne veut pas. Les trois, c'est impossible. Moi, j'ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs, toujours, toujours. Et je pense qu'on voit bien qu'il existe de voir une complicité entre eux, qu'il y a un travail collectif. Sur le dernier but d'Arda, Vini n'a pas cherché à marquer. Il lui a simplement donné le ballon pour qu'Arda puisse le faire. Les joueurs se prennent dans les bras, ils célèbrent ensemble, ils travaillent ensemble. Pour l'instant, je ne vois aucun problème entre eux. La seule chose que je vois, c'est qu'ils sont tous incroyablement forts.
Concrètement, sur le terrain, ça fonctionne plutôt bien. Tu l'as dit, Benoît, en trois matchs cette saison, c'est 4 buts pour Mbappé, 2 buts, 2 passes décisives pour Bellingham, 1 but, 2 passes décisives pour Vinicius. Le Brésilien, il est un peu en dessous des deux autres, mais Kylian Mbappé et Jude Bellingham, ils marchent vraiment sur l'eau. On dirait un petit peu leur version Coupe du Monde. Mourinho a décidé de les mettre à leur meilleur poste, c'est-à-dire de permettre à Bellingham d'être proche du but, à Vinicius de dribbler sur l'aile et Kylian Mbappé d'être devant, mais aussi d'avoir la liberté de redescendre pour toucher des ballons et provoquer balle au pied. Reste à voir maintenant, et c'est ça le vrai test, de voir ce que ça va donner dans les grands rendez-vous comme face à l'Inter la semaine prochaine en Ligue des Champions.
Jérôme, toi tu suis avec beaucoup d'intérêt les matchs du Real Madrid. Est-ce que tu t'es séduit par ce qui se passe au Real?
Totalement, parce que je trouve que, alors aujourd'hui c'est plus facile de faire de la kilinothérapie et ils lui rendent bien, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les trois joueurs à José Mourinho. Quand ça tourne comme ça, que les stats elles tournent pour Mbappé, pour Bellingham, pour Vinicius, tu peux même rajouter Valverde qui est capitaine de cette équipe et qui rayonne au milieu de terrain, c'est sûr que c'est plus facile pour le Real de s'imposer face à des équipes modestes. Attention,
oui, hein, pas une grosse adversité pour l'instant.
Non. Bah après, l'Espagne, on connaît les Espagnols et la qualité technique de beaucoup d'équipes, même du bas du tableau. Si tu les laisses jouer, ils te posent des problèmes. Et le Real arrive à bien gérer ses temps faibles aussi. Alors, il y a des choses qui vont pas encore défensivement. Mais je pense qu'ils vont corriger, et puis avec la confiance des résultats, ça va suivre. Mais non, moi je suis vraiment pas surpris. Ils sont dans la continuité de leur belle Coupe du Monde, que ça soit Kylian dans son comportement et dans ses performances, Bellingham totalement dans la continuité.
C'est lui la plus grande surprise finalement.
Oui,
c'est une grosse Coupe du Monde, mais l'année au Real a été compliquée.
Vraiment, il est costaud.
L'année d'avant, il avait été bon. Hein.
Ouais, l'année d'avant était très bon quand ils sont champions d'Europe.
Six mois.
Moi je pense que le Real faudra compter sur eux, et tant mieux. C'est bien pour le football européen, pour le football espagnol, d'avoir un Real de grande qualité. Et puis vendredi, ils vont se déplacer sur le terrain du Betis. Ça sera pas la même. C'est là qu'on verra, parce qu'ils vont galérer par moment.
Betis est qualifié en Ligue des Champions.
Mais j'aime bien le leadership aussi de Bellingham, qui a pas hésité à haranguer ses coéquipiers quand ils font pas les efforts. Écoute, il y a des signes qui sont bons.
Duga, t'as vu un peu les matchs du Real?
Non, mais oui, j'ai vu sans problème. Oui, je les ai tous vus. Écoute, il y a un bon mood. Il y a une bonne énergie, il y a des sourires, forcément ça se passe bien. Après, ils ont joué une adversité quand même assez faible, donc on verra quand ça va se corser un petit peu, parce que là-bas ça tourne vite. Il faut faire attention aussi. Après, moi ce que j'aime, voilà, c'est vrai que les grands joueurs, on peut penser qu'ils sont capables de jouer n'importe où, à n'importe quelle place, pardon. Oui, ils sont capables de dépanner, ils sont capables de faire l'affaire sur un ou deux matchs, mais malgré tout, si tu veux, qu'ils s'expriment de expriment leur plus grande qualité, leur plus grande force, c'est bien de les faire jouer à leur poste, c'est toujours pareil. Aussi grand soit-il, aussi fort soit-il, moi je trouve qu'il y a quelque chose quand même qui est intéressant dans ce que fait Mourinho, mais il est revient à des choses simples. Pour l'instant, il est beaucoup dans la psychologie, il est beaucoup dans le management, plus que dans la tactique. Son vrai gros point fort dans la tactique, c'est de mettre Güler au milieu et de le comparer à Modric. Pourquoi pas, c'est peut-être un peu tôt de le comparer à Modric. Mais c'est vrai que ce garçon, il fait le taf au milieu de terrain. Capitaine Valverde aussi, ça le fait.
Bon, ouais, puis les deux pivots du gars, tu sais, aujourd'hui, Valverde avec. Alors, il a commencé avec Bernardo Silva sur les deux premiers matchs. Mais là, Camavinga. Moi, je trouve que pendant une heure, Camavinga était très bon. Et ce qu'il leur demande, c'est vraiment de mettre du tempo. Tu vois, de pas s'endormir à faire du passe-va et tout sur la largeur. Ils prennent le ballon, ils y vont. Valverde le fait à merveille. Camavinga l'a fait aussi. Et c'est une bonne surprise, parce que je pense que, en effet, dans ce profil des deux joueurs-là, pour parler tactique avec José Mourinho, j'ai du mal à imaginer Tchouaméni intégrer le milieu.
Ah, bon, ah oui. Eric, t'as pu les voir un peu?
Ouais. Écoute, alors là sur le dernier match, il avait une équipe un peu d'anciens entre guillemets. Il n'y a plus beaucoup de recrues, il me semble, parce que
il a changé un peu. Il avait changé cinq joueurs. Ouais.
Mais quand on faisait le constat de la saison dernière, en tout cas moi, celui que je faisais, c'est que l'effectif pour le Real Madrid, et notamment derrière, était trop faible. Donc ils se sont renforcés avec Konaté, Dumfries et Cucurella, Cucurella qui est quand même un vrai.
Il va falloir voir quand même derrière pour l'instant.
Je suis d'accord avec toi, Nadia.
C'est pour ça que.
T'as du matériel.
J'ai hâte de voir les matchs de Ligue des Champions parce que cette équipe-là et ce club-là sont faits pour cette compétition-là. Et c'est
puis comment sport ils jouent l'Inter le premier match.
Voilà, c'est pas sur le championnat. À part quand ils vont jouer contre le Barça, ils vont jouer encore le titre contre le Barça. Bien sûr que là, on surveillera particulièrement. Mais si tu as Bellingham qui retrouve son niveau de l'équipe nationale d'il y a 2 ans. Ils vont être durs à bouger, bien sûr. Et il faudrait compter sur eux, quoi qu'il arrive. Alors merci. Que là, on les compte pas trop.
Edgar Groslot qui revient ce soir dans Génération After spécial Drôle de Dame.
Merci Edgar.
Avec Benjamin à partir de 20h. Merci Edgar. Et dans un instant, la page PSG dans Rotten sans flamme. Eh oui, Dembélé va prolonger au Paris Saint-Germain. Il était sous contrat jusqu'en 2028.
Bah, je crois que c'était la guerre avec Lucien Riquet.
Est-ce que Paris a raison de prolonger Dembélé? 32-16 pour en débattre avec nous. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 20h, Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie ? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.